Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Prince. Un peu prétentieux comme nom de scène, hein? Oui. Bah pas du tout. John Nelson a choisi pour son fils le nom de son groupe de jazz, Prince Rogers Trio. Prince Rogers Nelson naît donc le 7 juin 1958 à Minneapolis, dans le Minnesota. Le petit prince, il ne dépassera jamais le 1m57, sauf avec ses talons de 12 cm, découvre la musique en famille. Lorsque John joue du piano, Mattie, la mère, chante parfois avec lui. Alfred, le grand frère, l'initie à James Brown. Le parrain de la soul, Monsieur Sex Machine, aura effectivement une grande influence dans l'œuvre princière. Prince raconte avoir composé son premier titre, Funk Machine, à l'âge de 7 ans. À la maison, les cris couvrent la musique. Ses parents se déchirent. Quand la star de la télévision américaine, Oprah Winfrey, demandera à Prince quelle est la scène la plus autobiographique du film Purple Rain, il répondra « Celle où je regarde ma mère pleurer ». Le couple divorce en 1968. C'est un soulagement pour Prince. Un soulagement de voir que son père est parti en laissant son piano. Ballotté d'un foyer parental à l'autre, déficient des deux côtés, Prince conseillera, avec son ironie légendaire teintée d'humour noir, « N'abusez pas les enfants ou ils finiront comme moi » dans sa chanson « Papa ». À l'école, ce n'est pas mieux. Ses camarades le traitent de PD, de freak ou de punk. Il passe des heures dans la classe de musique où il se réfugie. L'ado en vrac est recueilli chez un de ses copains de classe, André Anderson, avec qui il squatte les disquaires de Minneapolis. Au sous-sol de la maison, les deux gamins montent leur premier groupe, Grand Central Corporation. André est à la basse, Prince joue de la guitare électrique offerte par son père. Sous la houlette d'un producteur local, Pepe Willie, démarre les premiers enregistrements en studio. Prince profite de l'absence du groupe au pause-déj pour toucher à tous les instruments. Batterie, piano, guitare. La voix, c'est moins évident, mais le travail finira par payer. Il est repéré par Owen Husney, patron d'une agence locale de pub, qui lui fait signer son premier contrat et le présente comme le nouveau Stevie Wonder. Ensemble, il convainc Warner Bros. Prince a 18 ans et signe un contrat pour 3 albums. Le premier, For You, sort en 1978. Le second sort dès l'année suivante. C'est ça le rythme de Prince, un album par an. En 1980, à Los Angeles, il joue en première partie des Rolling Stones. Consécration ? Pas forcément. C'est même un bide total. Le public des Stones n'est pas prêt pour lui. Frustré, Prince repart aussitôt, mais ne baisse pas les bras. Il dort peu, se nourrit à peine et travaille sans relâche. Ses collaborateurs font les frais de son exigence et de son perfectionnisme. Mais le résultat en vaut la peine, les albums cartonnent. Prince cherche, touche à tout et veut toucher le monde en faisant de la musique universelle. « Suis-je noir ou blanc » chantera-t-il dans Controversy. Il brouille les pistes. Sa personnalité est éclectique, comme sa musique. Il utilise différents pseudos. Jamie Starr, Alexandre, Nevermind, Christopher ou encore Joe Coco. Ou encore Joey Coco. Prince est un artiste en ébullition, en constante évolution. En témoigne son style. Si son costume mauve est gravé dans nos mémoires, Prince est d'abord la coupe afro et les pattes def, puis la coupe porc-épic, le trench clouté, les bottines à talons, encore les cheveux longs et bouclés et l'imperméable en cuir vintage. Une exubérance scénique qui cache en réalité une timidité excessive. « Suis-je hétéro ou gay ?» chante aussi l'artiste. Dans les années 90, il rencontre la chanteuse Ophélie Winter lors d'une soirée en boîte à Paris. Ils passent la nuit ensemble, mais rien ne se passe.
Ah.
À Los Angeles, où elle le rejoint la semaine suivante, rebelote. Elle lui pose alors la question. « Je vais te montrer comme je suis gay », lui répond-il en l'emmenant dans la chambre. « Gay Prince, tu parles, il est super hétéro et super sexy. On est restés 3 ans ensemble », racontera-t-elle. Toujours délicate. Elle figure dans la longue liste de ses conquêtes aux côtés de Dennis Matthews, dite Vanity, Suzanne Muncy, Jill Jones ou encore Suzanne Amelvoin. Ces chanteuses ont partagé la scène et le lit du Prince qui n'hésite pas à mêler vie privée et vie professionnelle. Le sexe, il le met beaucoup dans ses chansons et sans tourner autour du pot. Il n'hésite pas à décrire crûment la masturbation féminine dans Darling Nikki, l'orgasme et les orgies dans Uptown ou encore les fellations dans Head, de quoi choquer moi-même et les mères de famille de l'Amérique puritaine. Prince inspire l'autocollant Parental Advisory sur les pochettes de disques et n'hésitera pas à poser en tenue d'Adam sur la pochette de Love Sexy. En 1984, Prince devient célèbre internationalement avec Purple Rain. L'album se vend à plus de 20 millions d'exemplaires. La chanson génère près de 70 millions de recettes, ainsi qu'un Oscar. Et le film semi-autobiographique marque la génération X qui se rue dans les salles obscures. Prince se lance dans la conquête du monde et enchaîne les tournées aux quatre coins du globe. En 1987, il loue un somptueux appartement avenue Foch à Paris, mais retrouve souvent ses studios d'enregistrement à Paisley Park, près de Minneapolis. C'est là-bas qu'il joue quelques minutes avec Miles Davis, qu'il admire. S'il n'est pas jazzman, Prince partage avec lui le goût du risque et de l'impro. Après avoir signé la BO de Batman et de Tim Burton en 1989, il donne un nouveau souffle à sa musique avec le groupe The New Power Generation, qui connaît un immense succès. Quand sa relation avec Warner prend l'eau, son esprit libre n'est pas compatible avec la rigidité de l'industrie musicale, il prend ses distances, se tourne vers les labels indépendants et se renomme avec un symbole imprononçable que l'on surnomme le Love Symbol. Côté Love, justement, il épouse en 1996 Maty Garcia, qu'il a rencontrée lors d'une tournée. Elle tombe enceinte, mais leur bébé meurt prématurément. Après ce tragique événement, Prince devient témoin de Jéhovah. Fervent prosélyte de sa nouvelle religion, il ira jusqu'à faire du porte-à-porte. Cette même année sort l'album Emancipation. Quand son contrat se termine avec Warner en 2000, il récupère enfin son nom. En 2007, il donne une prestation légendaire lors de la mi-temps du Super Bowl. Parce qu'il ne faut pas oublier que Prince est une bête de scène dont l'énergie déborde lors de ses shows XXL. Le public se régale lors de son concert à Atlanta le 14 avril 2016. Son meilleur, dira-t-il deux jours plus tard. Son dernier aussi. Une semaine après, alors âgé de 57 ans, il est retrouvé mort dans sa propriété de Paisley Park après une overdose de fentanyl qu'il prenait pour ses douleurs à la hanche. Dans « Sometimes it snows in April », l'une de ses plus belles chansons, Prince chantait « Parfois je souhaite que la vie ne se termine jamais et toutes les bonnes choses, comme on dit, ne durent jamais ».
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.